son nom vous dit d'ailleurs peut-être quelque chose. Stéphane Linou bat la campagne et multiplie les conférences pour faire connaître ses idées qu'il a développées dans un livre. Pionnier du mouvement locavore en France, il développe une thèse pas banale. Manger local, c'est bon pour notre sécurité. Bonjour Stéphane Linou.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Alors, votre livre s'intitule « Résilience alimentaire et sécurité nationale ». C'est un livre que vous avez auto-édité. On va y venir avant cela peut-être. On va rappeler ce qu'est le mouvement locavore à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est un locavore déjà ?
Alors, un locavore, c'est une personne qui ne se nourrit qu'avec des produits locaux, généralement dans un rayon produit, enfin dans un rayon de 150 km autour de son assiette.
Autour de son assiette. 150 km autour de l'assiette. En hiver, ça donne quoi pour un locavore ?
Alors, en hiver, c'est généralement des légumes d'hiver, patates, choux, carottes, mais généralement, le locavore cuisine. Donc, il peut sortir les conserves qu'il a fabriquées à chaque belle saison pour chaque produit.
Ah oui, vous avez raison.
Donc, en fait, c'est pas triste.
C'est pas triste. Et vous savez de quoi vous parlez, puisque en 2008, vous avez tenté une expérience étonnante. Hein. Vous vous êtes nourri, donc vous avez tenté l'expérience locavore pendant un an de produits locaux exclusivement. C'était dans quel but à l'époque ?
Alors, j'ai tenté, j'ai réussi, en fait.
Eh oui.
J'ai pas fait que tenter, parce qu'en fait, oui, pendant un an, je me suis nourri qu'avec ces produits locaux, donc dans un rayon de 150 km autour de Castelnaudary, justement pour alerter sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements, parce que même en milieu rural, nous sommes sous perfusion alimentaire, et nous achetons nos aliments dans les grandes surfaces pour 80% de notre alimentation. Et qu'est-ce qui se passerait si il y avait une rupture d'approvisionnement sur la chaîne logistique, par exemple une cyberattaque sur la chaîne logistique, une pandémie grippale de niveau 6 où les transports auraient même interdiction de bouger, étant donné que nous ne produisons plus notre nourriture, que nous n'avons quasiment plus de paysans nourriciers autour de nous et qu'il n'y a pas non plus de stock alimentaire des collectivités locales et pas de stock alimentaire stratégique d'État, notre résilience alimentaire est quasi nulle, et donc nous serions peut-être proches d'émeutes si la perfusion alimentaire connaissait une avarie. Donc en fait, c'était pour alerter sur cela, pour montrer que il y avait assez de nourriture pour moi, mais
vous,
il
vous
n'y en
avez
aurait
réussi.
Pas assez pour tout le monde.
Voilà,
oui.
vous avez réussi.
Ouais. Exactement. Donc si on regarde l'autonomie alimentaire On va essayer de
donner des chiffres pour étayer ce que vous nous dites. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, nous sommes, vous l'avez dit quoi, vulnérabilité par rapport approvisionnements et sous perfusion alimentaire ? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça aujourd'hui sur notre territoire, par exemple ?
Alors, les chiffres, 2%, il y a des études qui sortent régulièrement.
Ouais.
Et il y en a une là qui pointe l'autonomie alimentaire des aires urbaines en France. Et là, par exemple, Toulouse n'a que 2,5 à 3% d'autonomie alimentaire. Donc, en fait, ça veut dire que 97 ou 98% de la nourriture est importée d'ailleurs. Et donc, très concrètement, nous sommes vulnérables parce que nos populations, ne sont pas préparées ni à produire, ni à stocker, et pensent que se nourrir est une affaire réglée, ce qu'il faut.
Alors, l'étude dont vous parlez, je crois que c'est le cabinet Utopie, notamment, qui a sorti cette étude, qui fait apparaître que la production de l'agriculture locale de ces aires urbaines est à 97% consommée à l'extérieur du territoire. C'est ça le paradoxe également, c'est qu'on serait capable, en plus de ça, de cette autonomie alimentaire ?
Alors, on serait capable à condition de modifier notre régime alimentaire aussi. Donc en fait, il faudrait, c'est vrai, flécher la production vers notre territoire. Hein, donc quand je dis territoire, ça peut être la région. Mais si on continue à surconsommer, je dis bien à surconsommer de la viande, c'est vrai qu'on n'y arriverait pas. Mmh. Donc en fait, ce n'est pas une autarcie que je vise.
C'est la question que j'allais vous poser.
Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on sauve les meubles en fléchant notre consommation, en territorialisant la production et la consommation et en stockant, soit on reste dans cette illusion de sécurité alimentaire et là, on reste vulnérable aux aléas.
Mais ça veut dire, Stéphane Linou, qu'il faudrait totalement revoir notre politique agricole en réalité.
Également. Politique agricole et politique alimentaire.
Et politique...
En fait, oui. Donc en fait, pour montrer que c'est un sujet, en fait, j'ai fait une étude. Hein, je suis allé prendre la température de ce sujet dans les ministères, au niveau de l'armée, au niveau des syndicats agricoles nationaux, au niveau des historiennes, des géographes, pour justement leur demander si la plus vieille question du monde, c'est-à-dire se nourrir et sécuriser la nourriture, était une question dans le monde de la production et si elle était une question dans le monde des risques. Puisqu'on a commencé par courir après la nourriture lorsqu'on était chasseur-cueilleur, ensuite on s'est posé, on l'a produite autour de nous, en inventant l'agriculture au néolithique. Ensuite, pour sécuriser les grains, on s'est regroupé en communauté, donc on a inventé les villages. C'est là qu'on a transformé nos espaces en territoires. Et c'est là aussi qu'on a grandement inventé la politique. Et maintenant, c'est la nourriture qui vient à nous, sans que l'on s'intéresse au comment et au jusqu'à quand. Et si l'on regarde ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires au Moyen-Âge, c'est-à-dire les consuls, elle était basée sur quatre sécurités. La sécurité extérieure, fallait bon, lutter, enfin, se prémunir des envahisseurs, fallait ériger et entretenir les remparts. La sécurité sanitaire, donc lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça. La sécurité intérieure, donc c'était l'ordre public. Et la sécurité alimentaire, fallait que quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. Mmh. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Et il y avait des stocks. Et il y avait un aménagement du territoire autour qui était dévolu à la consommation du coin. Donc en fait, c'était une question éminemment politique. Et un historien a compulsé les archives de Narbonne, qui sont très bien fournies. Il a découvert un arrêté municipal de 1720 à peu près, qui stipulait que sur certaines parcelles, il était interdit de planter de la vigne. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ça reste toujours en grain. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient connu une disette qui s'était déroulée quelques années avant. Mmh. Donc en fait, il y avait une prise en charge collective de l'alimentation, une conscience et une responsabilité collective qui se rajoutaient à une conscience et une responsabilité individuelle, c'est-à-dire que chacun avait un bout de jardin pour sauver les meubles. Donc en fait, ça n'empêchait pas les famines. Mmh. Mais comme c'était des sociétés de pénurie, elles étaient organisées autour de la pénurie et organisé pour sauver les meubles.
Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? La faute à qui, en fait ? Pourquoi ce système qui va à l'encontre de, vous nous l'avez dit, des chasseurs-cueilleurs, aujourd'hui c'est la nourriture qui vient à nous sans qu'elle soit forcément sécurisée. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit arrivé là ? Ça profite à qui ?
Nous sommes dans une ébriété énergétique. Depuis que
ébriété énergétique ?
Ouais. Depuis que nous avons découvert et exploiter des énergies qui ne sont pas faites pour Sapiens, qui ne sont pas faites pour nous, c'est-à-dire les énergies faciles, les énergies fossiles, que sont le charbon et le pétrole, eh bien on a contracté les territoires, l'espace et le temps, et en fait on a fait venir notre nourriture de loin.
Alors vous faites bien de parler d'énergie fossile, puisque aujourd'hui le mouvement locavore finalement a quand même le vent en poupe, hein. Manger local, on nous le sert à toutes les sauces, si je puis m'exprimer ainsi. On nous le sert, mais pas pour des raisons de sécurité, pour des raisons environnementales, pour l'empreinte carbone qu'on voudrait réduire. Vous nous dites, manger local, c'est bon pour notre sécurité. Est-ce que vous êtes un peu collapsologue, Stéphane Linou ?
Alors, collapsologue, c'est pas un gros mot, hein. Ouais. J'étais déjà sur cette question, ça fait 20 ans. Hein. Mm-hmm. Le mot collapsologie n'était même pas encore inventé. Moi, je n'ai rien inventé. J'ai juste dépoussiéré le plus vieux sujet du monde. Mm.
Alors, les collapsologues, on va préciser, hein, c'est ceux qui prédisent une forme d'effondrement. Yves Cochet porte ce mouvement haut. Qu'est-ce que vous craignez en réalité ? Vous nous parlez d'émeutes possibles. Vous y croyez vraiment à ça ?
Mais alors, si j'étais tout seul à le croire, ou encore on pourrait dire que je suis fou. Mais là, j'ai mesuré cette question
Ouais.
et je viens d'avoir le prix au Forum des risques majeurs, donc piloté par le ministère de la Transition écologique et solidaire, la Direction générale de la prévention des risques, où j'ai eu ce prix national. Ce sujet a été...
Mais j'ai vu que des médias, le Sunday Times, y a même consacré un article à vos théories. Donc c'est une théorie qui s'exporte en plus de ça. Les grandes surfaces, elles peuvent pas nous nourrir en quantité suffisante en cas de cyberattaque, c'est ce que vous craignez?
Mais elles n'ont que 2 jours de stock, sans panique. Je veux dire, les grandes surfaces, elles sont dans une politique du juste à temps, du flux tendu. Et donc, y a des gens qui sont payés justement pour limiter les stocks, parce que ça coûte. Donc, très concrètement, je veux dire, il y a des stocks nulle part et on ne produit pas notre nourriture alors qu'on a besoin de manger. Donc, en fait, j'ai pris ce sujet.
À bras le
Donc, j'ai
corps.
regardé si dans le monde des risques, on pensait à la production, et j'ai regardé dans le monde de la production si on pensait aux risques. Et des militaires, des gens qui travaillent à l'intérieur, des anciens généraux, certains politiques ou autres m'ont confirmé, oui, en effet, c'est un sujet.
Et alors,
Donc, une sénatrice de la Haute-Garonne,
Ouais.
Françoise Laborde, justement,
Ouais, elle apportait ce
au vu.
sujet, hein. Ouais.
Oui. Elle l'a porté au Sénat, donc déjà il était digne d'être porté quelque part.
Ouais.
Et il y a eu donc un débat au Sénat au mois de décembre dernier, qui était extrêmement intéressant. Le projet de résolution a failli passer pour un sujet qui n'avait jamais été porté quelque part. Et il n'a manqué que 16 voix. Alors c'était pas 2 voix contre 18, c'était 151 voix contre 157.
Alors
Et
concrètement, hein,
oui.
Stéphane Linou, parce que le temps nous presse, on fait quoi aujourd'hui, nous, tous ceux qui vous écoutent, pour participer à retrouver cette autonomie alimentaire si réellement un danger nous guette? On fait quoi?
Alors déjà, en tant que consommateur, on peut déjà commencer par flécher sa consommation et ses achats. C'est-à-dire que en achetant local, c'est une assurance vie. Donc en faisant travailler nos producteurs, c'est la meilleure façon de les maintenir autour de soi. Parce que depuis les années 60, comme des muscles qu'on n'a pas fait travailler, mais leur nombre a fondu.
Ouais.
Et donc en fait, on se retrouve sans infrastructure nourricière autour de nous. Donc déjà, en tant que consommateur, on flèche sa consommation, donc on achète local. Ensuite, également, on peut stocker. Ensuite, on peut aller voir ses élus et ses candidats pour qu'ils inscrivent dans leur plan de communaux de sauvegarde le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire comme tout autre risque dans le plan communal de sauvegarde. Et également, alerter les préfets et les préfètes pour qu'on se mette dans chaque département autour de la table, pour voir quelle déclinaison départementale on peut faire de ce sujet qui est maintenant reconnu par le gouvernement. À cette occasion-là, au mois de décembre, le gouvernement a reconnu que oui, effectivement, en effet, c'est un vrai sujet. Donc la résilience alimentaire des territoires doit être regardée avec les lunettes de la sécurité nationale.
Un immense merci Stéphane Linou pour cette
Avec
thèse
plaisir.
étonnante mais très intéressante que vous nous avez permis de prendre mieux conscience ce matin. Vous avez un site internet, je vais le donner, c'est stéphanelinou.fr. J'ai dit au départ que vous battiez la campagne parce que vous donnez beaucoup de conférences. Vous étiez à Mirepoix-Toulouse la semaine dernière et vous allez un peu partout en France. Tous les rendez-vous sont peut-être à retrouver sur votre site. Et puis je redonne le titre de votre livre, Résilience alimentaire et sécurité nationale. Un grand merci à vous.
Avec plaisir, bonne journée.